voix nue. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Jean-Michel Jarre. Ce soir, le spectacle comme geste politique.
Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, on a parlé cette semaine de votre enfance à Issy-les-Moulineaux et à Lyon, du succès planétaire de vos concerts géants et de la harpe laser inspirée de Bernard Sagener, des concerts où vous mettez en scène les sons et les images. Réunir plusieurs milliers, voire des millions de personnes autour d'un monument ou d'une ligne d'horizon dans la ville, c'est un geste qui touche aux politiques. Et même à l'histoire avec un grand H, hein, quand parmi les lumières, les projections, je pense par exemple à ce fameux premier concert du 14 juillet 79, on voyait Charlotte Corday remplacée sur la place de la Concorde par Charlotte Rampling, qui était votre compagne d'alors. Et par exemple, lorsque vous retournez en Chine en janvier 2004 pour l'année de la France, hein, sur la place Tiananmen, vous faites inscrire sur scène « Liberté, égalité et fraternité ». À quel moment est-ce que vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un musicien, mais aussi une sorte d'ambassadeur, de porteur d'image ? Et est-ce que c'est votre souhait ?
Alors, petite précision par rapport à ce que vous venez de dire sur le motto, comme on dit, ou symbole de la France qui est liberté, égalité, fraternité. En fait, le concert qui ouvrait l'année de la France en Chine en 2004 se déroulait dans la Cité interdite et sur la place Tiananmen, deux endroits qui sont à la fois controversés et en même temps qui font partie intégrante de l'histoire de la Chine et de l'histoire récente de la Chine, puisqu'en 89, personne n'a oublié ce qui s'est passé, la révolution qui a été réprimée par le gouvernement chinois. Et la devise des étudiants de 89 chinois, c'était « Liberté, égalité, fraternité » en chinois. Et donc, quand j'ai fait cette deuxième partie de concert sur la place Tiananmen, j'avais prévenu d'ailleurs les autorités chinoises que je voulais, puisqu'on ouvrait l'année de la France en Chine, c'était normal d'utiliser cette devise. Et que j'ai donc laborieusement appris en chinois, et qui est passé donc à la télévision chinoise en direct, et ça n'a pas été coupé, parce que je m'en étais expliqué d'abord avant avec les autorités chinoises, et que ça a permis de faire un lien aussi avec une empathie avec les étudiants et les artistes aussi qui n'ont pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, en accord avec le gouvernement chinois et avec les autorités chinoises de différentes époques. Et donc oui, je pense que j'ai toujours instinctivement considéré que on a une responsabilité quand on monte sur scène, quand on est un artiste. Il y a toujours deux versants sur le plan de la création, c'est-à-dire, et en particulier de la musique, c'est-à-dire qu'il y a un côté hédoniste, le fait de pouvoir faire la fête, d'écouter de la musique par plaisir, et puis il y a toujours un versant plus social, ou plus politique au sens grec du terme, qui est le fait que tous les mouvements musicaux dans l'histoire ont toujours été liés d'une manière ou d'une autre au reflet, par définition, de la société dans laquelle ces mouvements s'exprimaient et s'épanouissaient. Ça a été le cas du jazz au début, ça a été le cas du folk ou du rock avec les protest songs, ça a été le cas du punk, du hip-hop, du rap, et c'est le cas aussi de la musique électronique, qui a aujourd'hui un médium, un mode d'expression qui est lié à la technologie, notamment à Internet, plus que d'autres. Et donc, on a aussi, je pense, dans le monde de la musique électronique, une sorte de responsabilité ou de rôle éventuellement de passeur avec justement la partie pas seulement lumineuse et excitante de la technologie, mais qui peut être un peu plus sombre. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler à certains moments avec Edward Snowden. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, effectivement, dans tous les concerts que j'ai pu faire, il y avait toujours, il y a toujours eu, il y aura toujours une dimension sociale, politique que j'ai envie de partager avec le public qui m'écoute.
Vous le mentionniez, Jean-Michel Jarre, dans votre projet, ça c'est plus récent, dans Electronica, c'était en 2016, vous invitiez Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte impliqué dans les révélations d'informations secrètes de la NSA en 2013. Pourquoi est-ce que vous faites appel à lui ? Et comment est-ce que vous entrez en contact avec lui ? Parce que à ce moment-là, c'est quelqu'un qui se réfugie.
En fait, on a parlé cette semaine, hier ou avant-hier, de du rôle de ma mère, de son influence plus exactement, dans mes convictions que je porte aujourd'hui, qui est le fait que elle m'a inculqué l'idée que quand le pouvoir en place génère des idéaux ou des actes qui sont dangereux et qui peuvent être dangereux pour notre communauté, un certain nombre d'entre nous doivent se lever et réagir. Ça a été le cas de ma mère comme résistante. Et quand j'ai entendu la première fois Edward Snowden, il m'a rappelé les mots que utilisait ma mère dans un autre contexte. Et donc j'ai eu envie de le rencontrer dans le cadre de ce projet Electronica, qui est un projet d'album de collaboration dont le thème global est la relation qu'on a avec la technologie. Cette relation ambiguë qu'on a avec la technologie. En même temps, on a notre téléphone portable dans la poche et on a donc le monde à portée de main, si j'ose dire. Et en même temps, nous savons qu'il y a un côté plus sombre de l'utilisation de la technologie, l'atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression, etc. Et donc, j'ai eu envie de me rapprocher d'Edward Snowden, qui est un... Je savais que c'était effectivement parmi tous les geeks avec qui je collaborais, je pense que c'était le seul vraiment professionnel. Donc je suis rentré en contact avec lui par le Guardian, qui avait révélé les premières informations d'Edward Snowden et de Glenn Greenwald, qui était le journaliste qui était à Hong Kong et qui a révélé les premières informations sur Snowden, et son avocat Ben Wisner, qui est à New York. Je suis rentré en contact avec lui. Lui étant réfugié à Moscou à l'époque, et donc on a fait une première vidéoconférence à partir de mon studio, et j'ai découvert quelqu'un qui était d'abord un grand fan de musique électronique, qui connaissait bien mon travail, et il a tout de suite été intéressé par l'idée d'une collaboration. Je trouvais que c'était une bonne idée d'utiliser en fait quelques phrases qu'il puisse dire, qui résument les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Donc je suis parti à Moscou pour m'entretenir avec lui, enregistrer et filmer, puisque l'idée était au-delà de sa présence dans l'album, c'était aussi qu'il puisse avoir une présence filmée dans le concert, dans le morceau que j'allais jouer dans la tournée qui m'a emmené autour du monde ces deux dernières années, où donc Edward Snowden était chaque soir délivrait, si je puis dire, son message ou ses convictions à un public très 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 diversifié, et notamment lors de la tournée américaine, qui était effectivement quelque chose que j'avais en tête depuis le départ. Donc oui, c'est vrai que dans ce cas, effectivement, c'est un très bon exemple de voir que la musique est une certaine conscience politique, ou tout simplement des convictions, des messages que j'ai envie et qu'on a envie de partager avec le public, peuvent se rejoindre.
Quand vous allez à Moscou en 97 pour donner un concert à l'occasion des 850 ans de la ville de Moscou, il y aura près de 3 millions de spectateurs. Quelle histoire est-ce que vous racontiez en convoquant à la fois les images des tsars, Solzhenitsyn et l'art byzantin?
En fait, pour moi, la beauté, l'intérêt des concerts, justement, qui intègrent l'architecture, qui intègrent justement une création visuelle à grande échelle, c'est de pouvoir justement faire passer un certain nombre de messages ou de choses qui me tiennent à cœur, et donc un petit peu comme le scénario d'un film au fond. Et ce qui m'intéressait moi beaucoup dans la Russie de cette époque, de la fin des années 90, mais d'ailleurs d'aujourd'hui, puisque c'est une réflexion assez intemporelle, c'est le fait de montrer aux jeunes Russes qu'au fond, le rêve américain qu'ils ont, malgré tout, est en fait beaucoup de choses de la culture américaine. En fait, a été initié en Russie, a été initié par eux-mêmes. C'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, on s'aperçoit que si on voit les films d'Eisenstein, c'est du MTV avant la lettre. C'est-à-dire des montages extrêmement courts, un sens du cadrage complètement moderne. Si on l'influence de Rodchenko et tout le futurisme soviétique a influencé énormément le monde de la mode, le monde de la pub et l'architecture aussi. Tout ce qui est né autour des années 10 et 30 et qui a été aussi à contribuer à l'origine de la formation du Bauhaus aussi, qui était très influencé par le design et la vision russe, est quelque chose qui a été oublié même par les Russes eux-mêmes. Et j'avais envie justement de renouer, de faire passer ce lien entre ce qu'ils admirent aujourd'hui de l'Amérique, qui souvent est quelque chose qui est venu de chez eux. et qu'ils ont tendance à oublier. Donc c'était ça le message, avec le fait que effectivement la Russie d'aujourd'hui est un mélange extraordinaire de à la fois, comme vous le disiez, d'art byzantin, de évidemment de systèmes politiques controversés. Et en même temps, de cette espèce de fourmillement créatif qui a traversé le siècle dernier et qui aujourd'hui, on dirait, a du mal à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir où va la culture russe aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on... l'innovation qui était vraiment très 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 importante, l'innovation, les choses qui sont venues de Russie au XXe siècle sont très importantes, et on ne sait plus exactement où se situe la Russie en termes d'innovation, en termes de création aujourd'hui. Et donc c'était tout ça que j'avais envie de témoigner avec un regard extérieur aussi en même temps et de manière humble en même temps.
Un mouvement culturel important dans les années 90 en Europe, ce sera celui des raves, ces soirées improvisées dans des lieux inattendus, tenues secrets, où l'on joue de la musique électronique. Comment est-ce que vous vous y intéressez à ce moment-là, Jean-Michel Jarre ? Est-ce que vous y participez ?
Les rêves, je suis allé effectivement à plusieurs rêves, puisque ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puisque pour moi c'était le prolongement direct de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire depuis le départ, c'est-à-dire de d'une certaine manière de pirater un lieu une nuit et de manière finalement assez spontanée. Et c'était le principe des rêves, mais c'était exactement le principe, on parlait du concert de la Concorde, c'était une sorte de rêve en soi, une rêve avant la lettre, si on
fait version
dire.
Officielle.
Version officielle, mais en même temps, version officielle, à partir du moment où on est sur un lieu public, il y a forcément le côté officiel, et puis en même temps, il y a aussi un côté improvisé, il y a un côté, c'est dans ce sens-là que je le disais, évidemment, bien entendu. Ce qui m'a toujours intéressé dans les rêves, c'est la dimension poétique du fait d'investir un endroit de manière spontanée, de manière avec une forme d'innocence qui, pour moi, a été un mouvement très très important des années 90.
Vous avez été, Jean-Michel Jarre, même ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. L'UNESCO, à un moment, soutenait votre tournée quand, je me souviens, 1995 avait été déclarée année de la tolérance. On peut se demander si, franchement, décréter la tolérance, ça peut la rendre effective. Ce type d'entreprise, pour y avoir pris part vous-même, quels effets est-ce que vous avez pu mesurer par vous-même ?
Alors. Je vais préciser un peu ce que vous venez de dire. En fait, moi, je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis maintenant plus de 25 ans, et que en 95, il s'agissait de célébrer le 50e anniversaire des Nations Unies, et qu'on m'a demandé de faire ce concert à la Tour Eiffel, qui a d'ailleurs été le premier concert qui a été fait. C'est la première fois que la Tour Eiffel était éclairée. Je me souviens qu'on a eu beaucoup de mal à convaincre les gens de la Tour Eiffel que c'était possible. Ils me disaient que c'était absolument impossible. Bon, on a vu à partir de là que c'était plus que possible. Et puis, pourquoi je me suis beaucoup impliqué avec l'UNESCO et je m'implique beaucoup avec l'UNESCO, c'est que c'est une organisation qui est en fait... vous savez, aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui sont capables de finalement avoir un vœu ou une vision d'avenir. C'est-à-dire que les politiques sont de plus en plus pris par les échéances électorales de l'année suivante ou des mois qui vont venir. Les sociétés sont aussi, les grandes compagnies sont prises par les bilans de fin d'année. Et finalement, on vit dans une société qui a tendance à faire du vélo en se regardant les pieds plutôt que de regarder la route. Et l'UNESCO est une des rares organisations qui a toujours, dont je dirais même l'ADN, est justement d'essayer d'avoir une vision d'avenir en matière d'éducation, des sciences et de culture. Et donc c'est tout naturellement que beaucoup des concerts, des choses que j'ai pu faire ont été liées à l'UNESCO. Je donnerai l'exemple de l'Égypte, par exemple. C'était après l'attentat très meurtrier de Louxor, en 97, je pense. Federico Mayer, à l'époque, le directeur général de l'UNESCO, me dit « ça serait bien de réfléchir à quelque chose, faire en Égypte, parce que l'Égypte n'est plus visitée, à l'époque ne vit que du tourisme, et donc il faut qu'on essaye de faire quelque chose ». Donc je suis allé là-bas, j'ai rencontré Farouk Hosni, qui était, je dirais, le ministre de la Culture, une sorte de Jack Lang égyptien, et venu l'idée de faire un concert pour le millénaire, qui était extrêmement intéressant comme projet, parce que les pyramides, c'est l'Égypte ancienne, Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire des gens qui habitent l'Égypte aujourd'hui. C'est pas la même histoire. Et donc, l'idée était en fait à la fois de à cette époque-là, de pouvoir renouer aussi, de créer un lien entre l'histoire de l'Égypte ancienne et puis qui allait fêter son 7e millénaire. Et en même temps, la population vivant par exemple au Caire n'est pas particulièrement impliquée, intéressée d'aller visiter les pyramides. Et en même temps aussi de montrer aussi que, quelles que soient les atrocités qui peuvent se passer, dont on est tous victimes dans chaque pays dans lequel on se trouve, je veux dire par là des activités terroristes, qu'il faut absolument réagir positivement par rapport à ça. Et donc ce concert avait cette dimension, et évidemment c'est la raison pour laquelle je me suis investi pendant à peu près un an pour ce concert. Donc en fait, la plupart des choses que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, et que j'entends bien continuer à faire, c'est effectivement que ma musique et que les concerts que je puisse faire puissent servir, puissent aussi avoir une autre... sinon une autre dimension, en tout cas une autre raison que juste le fait de faire de la musique et de faire la fête. Et je pense que c'est dans ce sens que je suis personnellement tout absolument contre toute forme de boycott. Et que je pense qu'il faut absolument que les artistes aillent dans les pays qui sont dont les gouvernements ne font pas loin s'en faut pour un certain nombre d'entre eux ce qu'il faudrait faire en termes de droits de l'homme, de liberté d'expression, etc. Que c'est justement dans ces pays-là qu'il faut aller en priorité.
À une moindre échelle, par exemple, c'est la raison pour laquelle vous aviez souhaité commencer votre tournée de 97, je crois, à Toulon. Une ville dont la mairie avait été conquise par le Front National et dans laquelle plusieurs artistes ne souhaitaient plus jouer.
Ça va exactement dans le sens. Merci de poser cette question, parce qu'effectivement, j'étais très choqué par le fait que un certain nombre d'artistes, quand Toulon est passé du côté du Front National, ont décidé de boycotter la ville. Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que... Où arrêtons-nous le boycott? C'est-à-dire, est-ce que finalement on va ne plus leur livrer de nourriture? On va arrêter de leur livrer de l'essence? Alors, simplement parce que le Front National a le contrôle de la ville. Je pense qu'il faut quand même penser à la population et que de toute façon le fait d'aller à Toulon, c'est aussi le fait de continuer à tisser des liens avec la population. C'est ça qui est important. Le reste est secondaire. Et tous les gens qui disent oui, mais si vous allez dans tel pays, vous risquez de vous faire récupérer par le gouvernement, tant pis. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement d'aller en Iran aujourd'hui. Ça, c'est important parce que la population qui a moins de 25 ans et qui souffre justement d'un régime qui est pour le moins ambigu à bien des égards, aujourd'hui, on ne va pas en plus les priver de cinéma, les priver de culture, les priver de musique, les priver d'empathie, de lien, de leur dire oui, on est là, on existe. Et je pense que c'est le rôle des artistes de le faire. Vous savez, tous les progrès sociaux se sont toujours faits contre les pouvoirs en place. Donc il faut faire très très attention au jugement qu'on fait, et que beaucoup, et nous sommes spécialistes en France de ce genre d'attitude, c'est de voir le monde à partir du café de Flore, que par ailleurs j'aime beaucoup.
Est-ce qu'il y a aussi un geste d'ordre politique? Jean-Michel Jarre a rappelé, comme vous le faites souvent, l'importance de l'axe franco-allemand au cœur de la musique électronique.
Oui, je pense que l'axe franco-allemand est bien au-delà de la musique électronique, est extrêmement important à rappeler par rapport à l'Europe. Moi, je me sens européen avant tout, et que effectivement, la musique électronique, on oublie souvent qu'elle est née en Europe continentale. Elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. Elle n'a rien à voir avec la culture américaine au départ. Et c'est une musique qui probablement vient de notre héritage, la musique classique. C'est-à-dire ces longues plages instrumentales qui n'ont rien à voir avec la chanson ou avec la pop. Et même si elle a pu devenir populaire, et si j'ai contribué à la rendre populaire, mais c'est une musique qui au départ n'a rien à voir avec les anglo-saxons. Et qui peu à peu a envahi le monde, exactement comme le rock'n'roll ou comme les musiques populaires anglo-saxonnes. Et c'est vrai que notre héritage par rapport à la musique électronique, nos origines, elles viennent de Stockhausen en Allemagne, de Pierre Schaeffer et Pierre-Henri en France, de avant de Luigi Russolo qui a été un vrai Jules Verne de la musique électronique au début du XXe siècle avec son manifeste l'art des bruits où il a vraiment imaginé la manière dont on allait faire de la musique plus tard. Et puis évidemment des gens comme Léon Térémine en Russie,
Edgar Varèse,
à une époque où ça n'existait pas en dehors de l'Europe continentale. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la scène électronique française ou allemande est si vivace et si importante, c'est tout simplement parce que cette musique est née en Europe continentale.
La musique française, ou disons l'identité musicale française, c'est quoi pour vous, Jean-Michel Jarre?
C'est une manière assez impressionniste d'approcher la musique.
Donc Debussy plutôt?
Debussy, Ravel, mais aussi R, ou Rick Satie, Piaf. Ou Gainsbourg, il y a, à travers la musique française, une identité très forte qui est une approche, je dirais, impressionniste et poétique des sons et de la manière de construire une mélodie ou de construire tout simplement une œuvre musicale. Et je pense que c'est assez différent, par exemple, des Allemands qui ont à la fois un côté plus épique et en même temps, dans le cas de la musique électronique, plus froide, plus robotique. Évidemment, on pense à Kraftwerk, mais aussi Tangerine Dream à l'époque qui quittait la scène pour laisser les machines fonctionner toutes seules. Il y a une forme d'apologie de la machine. Chez les Allemands qui rejoint aussi les philosophes allemands, enfin ça fait partie de la culture allemande et je pense qu'il y a une très grande spécificité de l'expression française, tout domaine confondu, dans le cinéma, dans la musique, dans la littérature, et quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a justement des spécificités très fortes et je dois dire que on ne s'en échappe pas. Je sais que si je réécoute Oxygène, je me rends compte que c'est une musique qui est, au fond, même si elle a traversé les frontières, qui est, je crois, assez spécifiquement française.
On vous associe, Jean-Michel Jarre, forcément à la musique électronique et donc à l'électricité. Je crois pourtant que vous aviez un jour annoncé, en 1994, que vous donneriez un concert acoustique à la radio. Et je crois que vous l'avez vraiment fait. Et je crois que c'était avec un orgue de Barbarie.
Ah, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Et en fait, j'avais, y avait l'idée de pouvoir justement montrer qu'on pouvait aussi avoir une approche sonore et pas seulement classique d'approche musicale en jouant des notes, mais en faisant des sons, notamment aussi avec un très très grand luthier français qui sont les frères Bachet. Et, ah ouais. Et notamment les orgues de verre Bachet, toute l'instrumentation Bachet qui est extrêmement fondatrice et importante dans l'histoire de la musique électroacoustique, bien qu'elle ne soit pas électrique, mais je pense que les frères Bachet ont eu une importance capitale dans la manière de concevoir l'approche sonore de la musique. Et on devrait beaucoup plus ici et ailleurs d'ailleurs célébrer les créations des frères Bachet. On devrait mettre ces instruments à la portée des enfants dans les écoles maternelles. Ce serait une très très belle manière d'approcher la musique sur le plan sonore et aussi sur le plan poétique. Pour moi, ils sont extrêmement importants. Ils se situent vraiment entre la recherche sonore d'un Pierre Schaeffer ou d'un Pierre-Henri et de Calder. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a en même temps cette idée de structure sonore, de sculpture sonore.
Voilà, pour le décrire, c'est très beau. Ce sont des objets en verre que l'on touche et c'est la vibration. Donc il y a un contact avec l'objet et puis il y a aussi un aspect de sculpture qui peut ressembler quasiment à une fleur de métal.
C'est ça, oui. Voilà. Merci de le préciser pour les auditeurs qui savent pas de quoi je parle. Une des créations des frères Bachet, c'est ce qu'on appelle l'orgue de verre, c'est-à-dire que c'est imaginons un clavier mais fait de tiges de verre qu'on mouille les doigts comme quand on fait de la musique avec des verres en cristal. Et les haut-parleurs, les résonateurs sont des grandes feuilles de métal, d'inox. Qui sont très très beaux et qui en fait sont les haut-parleurs. Et donc ça, voilà l'exemple d'un concert sonore, qui serait purement acoustique, mais avec une approche sonore.
Il y a d'autres instruments non électroniques qui vous ont intéressé et avec lesquels vous avez travaillé, Jean-Michel Jarre. Ce sont les steel drums, qui sont caractéristiques du calypso, qu'on a inventé à Trinidad. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces percussions? Et dans leur histoire, c'est des instruments que vous allez utiliser notamment en 90 dans En attendant Cousteau.
Le steel drum, encore une fois, c'est un instrument qui est extrêmement intéressant parce qu'il est aux confins de la technologie et en même temps de la musique, c'est-à-dire que voilà des gens qui font de la musique avec des bidons de pétrole. Avec ces déchets industriels, ils vont fabriquer des instruments et faire une musique extraordinaire. Donc j'avais envie à un moment donné d'impliquer notamment un groupe qui s'appelle les Amoco Renegades, Amoco étant une marque de pétrole bien connue, et ce sont les renégats du pétrole d'une certaine manière, et je trouvais que célébrer l'environnement avec les renégats du pétrole me semblait approprié.
J'aimerais parler d'un autre instrument, Jean-Michel Jarre, qui a son importance aussi dans votre parcours. Ce sont les voix que vous allez beaucoup utiliser, notamment dans l'album Zoulouk en 84. On entendra notamment l'artiste américaine Laurie Anderson. Il y avait beaucoup de voix dans ce disque-là, mais pas la vôtre, je crois.
Non, l'idée de Zoulouk, c'était dans le cadre d'une de musique instrumentale que je fais. J'avais envie d'utiliser la voix, non pas comme pour raconter une histoire, pour faire une chanson, mais d'utiliser la voix comme matériau sonore. Et donc je me suis baladé un peu partout dans le monde pour enregistrer des sonorités vocales brutes. Et donc j'ai utilisé des mots, mais non pas pour leur sens, mais pour leur intérêt phonétique, en utilisant les phonèmes et les monèmes de certains langages. Et donc j'ai récolté des sons et je me suis retrouvé avec Laurie Anderson effectivement sur certaines parties de l'album pour inventer aussi un langage mais qui avait un intérêt et un charme poétique. Donc l'idée de Zoulouk, c'était vraiment de faire un album en prenant le matériau vocal et que le matériau vocal intervienne pour tenir le rôle de la rythmique, de tenir le rôle de la basse, tenir le rôle d'une guitare ou d'une clarinette, mais que ce soit un album vocal, mais sans paroles compréhensibles.
On en restera là pour ce soir. À demain, Jean-Michel.
À demain.
Why are our private details that are transmitted online? Why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals?
Stored in our private journal.
À voix nue, réalisation Véronique Samouilov, prise de son Élodie Royer, Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
An entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? Stand up for it.
Speed.